Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les rites secrets des Indiens Sioux » est un ouvrage d'anthropologie religieuse centré sur la tradition sacrée des Sioux Oglala, telle qu'elle a été transmise à Joseph Epps Brown par Black Elk ou Eaka Sapa. Publié à partir d'entretiens recueillis au milieu du XXe siècle, le livre présente le cœur rituel et symbolique d'une culture qui a longtemps considéré certains enseignements comme trop sacrés pour être divulgués. L'ouvrage se situe à la frontière du témoignage ethnographique, du texte de transmission spirituelle et du document historique. Il ne cherche pas à raconter une intrigue, mais à exposer une vision du monde où le grand esprit, la nature, la communauté et les rites sont indissociables. Sa valeur tient autant à la précision de la collecte qu'à l'accès rare qu'il donne à une tradition religieuse autochtone transmise oralement. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la transmission orale des sept rites sacrés comme noyau du livre. Le cœur de l'ouvrage réside dans la restitution des sept rites sacrés des Oglala Sioux, transmis oralement par Black Elk à Joseph Epps Brown. Cette démarche est essentielle, car le livre ne construit pas une théorie abstraite des religions amérindiennes, il fixe par écrit un savoir rituel auparavant réservé à l'initié. Le lecteur découvre ainsi une tradition structurée par des cérémonies de purification, de quête de vision, de danse sacrée, de liens d'apparentage et d'autres rites communautaires. L'intérêt analytique du livre vient du fait que ces rites ne sont pas présentés comme des survivances folkloriques, mais comme un système cohérent d'accès au sacré. Brown joue ici le rôle de collecteur et d'interprète, tandis que Black Elk apparaît comme la source doctrinale. Cette double médiation donne au texte sa force documentaire, mais elle rappelle aussi que le livre est le produit d'une rencontre historique précise, et non d'une description extérieure ou académique détachée. Deuxièmement, une cosmologie du grand esprit qui relie l'humain, la nature et le sacré. Le livre se distingue par la place centrale accordée au grand esprit, pensé comme une présence qui traverse le monde vivant et le cœur humain. Cette perspective n'oppose pas religion et nature, elle les unit dans une même vision cosmique. Arbres, rivières, animaux, montagnes et êtres humains appartiennent à un ordre spirituel commun, ce qui donne aux rites leur fonction de mise en relation plutôt que de simple observance cérémonielle. Le texte montre que le rituel n'est pas décoratif, il sert à rétablir une justesse entre la personne, la communauté et les forces invisibles. Cette conception éclaire la logique interne des cérémonies décrites, car elles visent toutes à orienter l'existence vers une vie plus conforme à l'ordre sacré. Le livre est donc important pour comprendre une religion où la sacralité n'est pas confinée à des lieux séparés, mais imprègne l'ensemble du réel. C'est cette vision intégrale du monde qui explique la cohérence des rites exposés par Black Elk. Troisièmement, un document ethnographique rare sur des savoirs longtemps gardés secrets. L'ouvrage possède une valeur ethnographique particulière parce qu'il donne accès à des enseignements que les Sioux considéraient comme trop sacrés pour être diffusés largement. Le texte ne se contente pas d'évoquer des coutumes générales, il entre dans la logique d'une tradition religieuse qui a longtemps privilégié la discrétion et la transmission interne. Cela explique pourquoi le livre a été perçu comme un document majeur pour l'histoire des peuples des plaines. Sa portée dépasse la simple curiosité culturelle, car il contribue à fixer par écrit des pratiques dont la préservation dépendait jusque-là de la parole vivante. Cette mise par écrit n'est cependant pas neutre, elle transforme une connaissance rituelle communautaire en objet de lecture pour un public plus large. Le livre se situe donc dans une tension intéressante entre préservation et divulgation. C'est précisément cette tension qui lui donne sa singularité, car il documente une tradition tout en rendant visible le problème classique de l'anthropologie religieuse. Comment enregistrer un savoir sacré sans le réduire à une simple information? Quatrièmement, le rôle de Joseph Epps Brown comme médiateur entre monde académique et sagesse Lakota. Joseph Epps Brown n'est pas seulement un éditeur ou un transcripteur, il est la figure qui rend possible le passage d'une tradition orale vers un livre accessible à un public. Lettré. Son parcours d'universitaire spécialisé dans les religions amérindiennes explique son approche attentive, fondée sur l'observation prolongée et l'écoute. Le texte montre que Brown a vécu auprès de Black Elk pour enregistrer les enseignements sur une période suffisamment longue afin de restituer leur logique d'ensemble. Cette posture diffère d'une enquête rapide ou d'une compilation secondaire. Elle donne au livre une autorité particulière dans le champ des études sur les spiritualités autochtones. Brown se tient dans une position d'intermédiaire, il ne remplace pas la voix de Black Elk, mais organise sa transmission. Cela fait du livre un exemple intéressant de collaboration entre un détenteur de tradition et un chercheur. Pour le lecteur, cette médiation est importante, car elle permet de comprendre à la fois la source indigène du contenu et le cadre savant qui l'a rendu publiable. En dernier lieu, un classique de la religion des Indiens des plaines et de la réhabilitation des traditions autochtones, Le livre est souvent considéré comme un classique parce qu'il a contribué à changer le regard porté sur les religions autochtones nord-américaines. Sa réputation tient au fait qu'il ne présente pas les rites Sioux comme des curiosités ethnographiques isolées, mais comme une tradition spirituelle profonde, cohérente et digne d'étude. En ce sens, il a participé à une réhabilitation intellectuelle et culturelle des savoirs amérindiens. Sa place dans la bibliographie est renforcée par le fait qu'il est fréquemment lu en dialogue avec Black Elk Speaks, l'autre grand témoignage attribué à Black Elk. Ensemble, ces ouvrages dessinent un panorama complémentaire de sa vision du monde, l'un centré sur la grande vision, l'autre sur les rites. Le livre se distingue donc des ouvrages généraux sur les peuples autochtones par sa précision rituelle et sa source directe. Il intéressera autant les lecteurs d'histoire des religions que ceux qui cherchent à comprendre la continuité entre cosmologie, cérémonie et identité culturelle chez les Sioux Oglala. En conclusion, les rites secrets des Indiens Sioux s'adressent d'abord aux lecteurs intéressés par les religions autochtones, l'anthropologie religieuse et l'histoire des peuples des plaines. Il conviendra aussi à ceux qui veulent comprendre une vision du monde où le sacré structure la vie quotidienne, la relation à la nature et l'organisation communautaire. Son apport principal est de rendre lisible une tradition rituelle à partir d'une voix indigène reconnue et non à travers un simple commentaire extérieur. Pour un lecteur contemporain, le livre offre un bénéfice intellectuel net. Il permet de saisir comment une cosmologie peut s'incarner dans des rites concrets et dans une éthique de l'attention au monde vivant. Ce qui le distingue de nombreux ouvrages similaires, c'est l'alliance entre rareté du contenu, valeur documentaire et portée spirituelle. Il ne se limite pas à décrire des pratiques, il montre une manière d'habiter le monde. C'est cette densité, à la fois historique et religieuse, qui explique son statut durable de référence. Si vous souhaitez soutenir Joseph E. Brown, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.